Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire de Radio Foot International, un Café des Sports que vous pouvez suivre aussi en images puisque nous sommes en Facebook Live grâce à Swell Kedir et Laure Tamperville aujourd'hui. Alors ces images me donnent l'occasion aussi de présenter ceux qui sont dans le Café des Sports aujourd'hui avec moi et le tandem infernal est là. Bonjour Rémi Ngono et bonjour Xavier Barré.
Bonjour, je suis toujours là, il y a un fugitif qui est de retour.
Oui. Faut pas le laisser trop longtemps tout seul.
N'est-ce pas? Bon, alors, pour arbitrer les débats aujourd'hui, ce ne sera pas le Jefe, pas vraiment, mais c'est un autre Argentin, vous inquiétez pas. Eric Mamrut, bonjour Eric.
Bonjour Ami, bonjour messieurs.
Hola, hola, señor Eric.
Merci d'être avec nous.
À la hauteur du Jefe.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, Eric. Dans les débats du jour, nous aurons José Mourinho et Pep Guardiola. Les revoilà face à face, face to face, puisque c'est à Londres qu'ils se retrouveront demain soir. Tottenham et Manchester City se rencontrent à un moment spécial où les citizens de Pep sont moins dominateurs, alors que un an jour pour jour après son arrivée, le Mou, comme on le surnomme notamment, est avec les Spurs deuxième de la Premier League. En Espagne, cara a cara entre les Colchoneros et les Blaugrana. Loin devant, l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone sur sa pelouse. Animal blessé, toujours en proie, surtout à ses démons. Et là, c'est le cara a cara, le face-à-face, c'est entre Griezmann et Messi. Quels effets de ces polémiques sur les hommes de Ronald Koeman? Nous essaierons de voir. El Jefecito, mais oui, il y en a un, et ça c'était sans doute le vrai. Il raccroche Javier Mascherano, l'ancien défenseur de l'Argentine, mais aussi homme lige du grand Barça de la belle époque, a annoncé à Buenos Aires qu'il prenait sa retraite de joueur, sans doute pour mieux devenir entraîneur. Enfin, il y aura notre session carton aujourd'hui. Elle est un peu nouvelle cette fois, grâce notamment à David Finzel, puisque c'est lui qui s'en occupe. Et il faut vraiment s'en occuper, mais grâce à vous, chers auditeurs, si inventifs et si créatifs, nous écouterons aujourd'hui et nous verrons, pour ceux qui nous regardent, vos cartons tout au long de cette émission, parce que vous êtes vraiment trop forts. Écoutez.
Bonjour Café des Sports, Radio Foot International, le vendredi, le Café des Sports, c'est la meilleure des jours. On écoute chaque temps, mais le vendredi, c'est un jour spécial pour tous les amoureux du Radio Foot International. Le vendredi, c'est la meilleure. Waouh! Moi, c'est Saïbouni Hafiz depuis le Bénin. Je donne un carton vert à Michel Dussier, le coach là, qui est en train de transformer le football de mon pays. Qui fait que maintenant le Bénin est respecté, je lui donne un carton vert. Et je salue tout le monde sur le plateau. Je ne sais pas qui sera là, mais je sais que Rémi sera là, Xavier Barré sera là ce vendredi. C'est un peu contournable.
Heureusement que vous êtes là, parce que sinon on aurait contredit notre cher auditeur.
Ouais, non, mais effectivement. De temps en temps, il faut que Rémi ait une opposition solide, sinon il peut vite dire n'importe quoi.
Rémi, ils sont émouvants, ces auditeurs, non?
Oui, vous savez, moi j'ai commencé à le ressentir depuis, et d'ailleurs c'est pour ça que sur ma page Facebook Mingon officiel, les cartons existent depuis, parce que c'est une façon de communiquer aussi, et surtout qu'en Afrique, ils sont très nombreux à nous suivre, et parfois ils nous font des suggestions, et en même temps, ils ont aussi eu à constater une certaine chose, c'est que El Jefe et bien sûr Xavier Barré et bien d'autres étant pro Barça, il fallait bien qu'il y ait du contrepoids. Donc et du coup, j'ai compris que il me donnait toujours des cartouches pour venir abattre un peu Xavier Barré.
Vous allez voir, il y en aura des cartons et on parlera aussi de Rémi le Madrilène. Pour l'instant, place au premier débat de cette émission. Musique. Ne l'appelez plus jamais The Special One, cette supplique signée José Mourinho de lui-même. Et ça suffit à faire couler de l'encre et à susciter des débats. Le mou portugais, qui s'était déjà autoproclamé le spécial numéro 1, lorsqu'il avait débarqué à Chelsea en 2004 après sa victoire en Ligue des Champions avec le FC Porto. Il nous avait offert, vous vous en souvenez sûrement, The Happy One, ça c'est quand il était revenu à Chelsea en 2013. Et maintenant, il nous suggère un autre surnom.
Experienced one.
Il faudra m'appeler l'expérimenté. Je suis très expérimenté. Tout ce qui m'arrive dans le football, c'est du déjà vu. Tout ce qui s'est produit jusque-là, c'est l'accumulation de l'expérience. C'est une opportunité. Il y a des jobs pour lesquels il faut une bonne condition physique, comme pour les joueurs. Un joueur de 40 ans n'a pas le même potentiel qu'un joueur de 20 ou de 30 ans, sauf si vous vous appelez Zlatan Ibrahimovic. Il s'améliore année après année. Pour ce qui est d'entraîner, vous avez juste besoin de votre cerveau. L'accumulation des expériences et des connaissances ne peuvent que vous rendre meilleur.
Rémi Ngonon, on a eu l'impression à un moment qu'on devait l'appeler The Unhappy One, parce que c'est vrai qu'à Manchester United, je pense qu'il n'a pas été super heureux. Ça vous plaît, The Experience One, l'homme expérimenté?
Tout à fait, puisqu'on se rend quand même compte que...
C'est lui qui s'autoproclame quand même. Hein.
On dit que le porc ne se dit pas gras, mais en même temps, c'est un proverbe africain, mais en même temps, il faut quand même aussi savoir que si vous n'êtes pas capable, comme le lion, à dire que je suis le roi de la forêt, personne ne va vous concéder cela. Donc au moins, parce qu'il se sent fort et parce qu'il a déjà fait l'expérience dans les plus grands championnats et dans les plus grands clubs, il peut dire qu'il est expérimenté. Il a été au Portugal. Tout au moins, dans sa verte jeunesse, on peut se dire que là-bas, il a prouvé de quoi est-ce qu'il était capable. Non seulement en remportant quand même une Ligue des Champions, en étant aussi champion, en remportant une Ligue Europa, il est quand même parti de l'autre côté, où ? En Angleterre. Il faut quand même se dire que quand José Mourinho arrive en Angleterre, il y a un grand maître qu'on appelle Sir Alex Ferguson. Or, qu'est-ce que vous allez voir quand même? Il va remporter deux fois le championnat entre 2000, deux fois champion, sans pour autant oublier qu'il va remporter aussi la Coupe d'Angleterre, il va remporter la Super Coupe, il va remporter beaucoup d'autres choses. Il va partir parce qu'on va le limoger. Il va partir, bien évidemment, en Italie. On me dit non, il a des vieux joueurs et tout et tout et tout. Mais il réussit un triplé historique. C'est-à-dire que non seulement il remporte la Ligue des Champions en battant, s'il vous plaît, le Barça et, bien sûr, le Bayern. Donc, pour dire que le schéma était très tortueux et très difficultueux, il réussit ça. Après, on dit quand même que, bon, comme on a vu qu'il a éliminé le Barça à 10 contre 11, on va le mettre au niveau du Real Madrid. Il arrive au Real Madrid, on s'est moqué de lui lorsqu'il a pris la manita. Mais qu'est-ce que le gars, il a fait? Il a réussi alors que le Real ne parvenait plus à remporter une Liga. Il a remporté la Liga. Le Real ne parvenait plus à traverser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bon, eh bien, il a amené jusqu'à la huitième.
On en est en 2010, là.
Là, nous sommes déjà en 2013. 2010, c'est à l'Inter.
Et depuis, il n'a plus rien gagné.
C'est l'Inter qui remporte la Ligue des Champions. Attendez, je n'ai pas perdu la chronologie. À l'Inter, c'est 2010.
Et depuis, il vient maintenant. Depuis, il a presque plus rien gagné. Voilà.
Mais si, il a été champion d'Angleterre.
Il a été champion d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il dit,
Chelsea,
son dernier titre date
de 2015 avec Chelsea.
Oui,
voilà, ça c'est
sinon,
parfait.
Sinon,
ça
aujourd'hui, Mourinho, c'est un entraîneur qui vient, qui prend beaucoup d'argent, qui transfère des joueurs très chers et qui ne gagne plus rien. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer à Tottenham.
Il a gagné la Ligue Europa, il me semble. Oui, aussi, enfin, avec Manchester United.
La Ligue Europa, c'est un lot de consolation.
Vous recrutez
Mourinho pour gagner l'Europa League?
Bon,
attendez. Non, mais Rémi Ngonno,
Vous faites venir José Mourinho pour gagner
la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa. Oh là, je suis vraiment très déçu. Je pense que beaucoup d'auditeurs aussi.
On y va calmement parce que...
Ah ben non, vous avez déjà fait... Vous avez déjà fait un monologue de 10 minutes.
Si vous êtes en train de dire que... La Ligue Europa n'est plus une coupe européenne, alors que tout de suite,
Annie vous a rappelé qu'il a remporté le championnat,
que vous ne saviez même pas.
On ne recrute pas José Mourinho.
Vous avez oublié qu'il a eu une année sabbatique.
On ne recrute pas José Mourinho pour gagner la Ligue Europa. Donc, depuis son titre de champion avec Chelsea en 2015, depuis, il n'a plus rien gagné d'important.
Eric
voilà.
Mamrut.
Donc, José Mourinho, c'est peut-être the experience one, mais c'est surtout the loser pour le moment. Donc, il va peut-être falloir qu'il nous montre autre chose s'il veut rester fidèle à cette réputation qui est la sienne.
On ne peut pas recruter Pep Guardiola, je vous le dis,
eh ben non,
pour aller au Bayern, il vient gagner. Depuis combien de temps il n'a plus gagné la Ligue des Champions? Plus rien! Attendez! Et combien il a recruté?
Lui, il essaye de gagner la Ligue des Champions chaque année.
Il a pris le Bayern, qui était triple champion.
Il ne se contente pas d'une Ligue Europa.
Attendez.
Pep Guardiola, il essaye de gagner la Ligue des Champions chaque année.
Il essaye. La grenouille essaye d'être costaud comme l'hippopotame. Mais n'a jamais réussi.
Il ne se contente pas. Alors maintenant, je vais quand même dire quelque chose qui va dans le sens de José.
Il y a Eric qui a parlé aussi.
De José Mourinho. C'est que si on regarde bien ce parcours du technicien portugais que Rémy Nguono nous a rappelé longuement et largement avec moult détails, donc vous vous apercevez qu'il a effectivement une vraie réussite avec les clubs entre guillemets qui n'ont rien gagné ou très peu. Donc quand il prend Chelsea en 2004, il les fait gagner tout de suite en 2005, en 2006. Quand il y revient, il les fait encore gagner en 2015. Donc, c'est vrai que ce club qui n'avait rien gagné depuis 50 ans, avec Mourinho, il trouve les mots pour les faire gagner. Quand il retourne à l'Inter de Milan, effectivement, c'était un club qui était champion d'Italie depuis 4 ans quand même. Mais bon, qui au niveau européen n'avait rien gagné d'important. S'ils avaient gagné quelques coupes de l'UEFA, mais ils n'avaient pas réussi à être à nouveau champion d'Europe. Et il leur fait gagner la Ligue des Champions en 2010. Donc, quand il est dans des clubs qui sont bien en deçà des standards là où on les attend, avec des moyens importants, il arrive à faire gagner. Mais quand il vient dans des clubs qui sont des institutions, qui sont déjà au sommet, ou qui en sont très proches, comme le Real Madrid ou comme Manchester United, il échoue. Or là, il arrive à Tottenham, dans un club qui est loin du palmarès auquel on l'attend,
puisqu'ils n'ont plus
été champions depuis 1961. Ils n'ont été que deux fois dans leur histoire, en 51 et en 61. Ils ont gagné quelques coupes de l'UEFA, ils sont allés une fois en finale de la Ligue des Champions, ce qui était une superbe performance, mais en fait, c'est un club qui ne gagne rien. Donc là, en fait, quelque part, il est dans son univers.
Eric, en plus, on peut peut-être se dire, José Mourinho, face à Pep Guardiola, peut-être là, c'est avantage à Mourinho par le fait d'être mieux classé en Première Ligue ?
Non, moi, je dirais pas ça. Puisque ça sera leur 24e duel ce week-end. Et là, l'avantage, il est à Guardiola, 11 victoires pour 6 à Mourinho, 6 matchs nuls. Bon, après, le débat, je ne sais pas s'il est toujours dans le coup, s'il est expérimenté, si on doit revenir au surnom
heureux
qu'il se donne. Évidemment, il est expérimenté, ça, on ne peut pas le nier, évidemment, avec son palmarès, avec tous les pays qu'il a traversés. C'est un des entraîneurs les plus expérimentés. Après, le débat, c'est moi, ce qui m'amuse, c'est que lui-même, effectivement, s'attribue ce surnom et joue un petit peu à ça. Et bon, moi, je l'appellerais plutôt le Melon One, ou le Melone en italien, évidemment. Parce, bon, on sait, mais c'est ça qui est bien avec lui. C'est un personnage charismatique et c'est ce qui plaît, je pense, dans tous les sports. Des personnages comme ça, des rivalités avec Guardiola qui a une autre personnalité, même si, à la différence de leur début, on va dire, Rémy mentionnait la Ligue des Champions 2010. Non.
C'est bon,
la demi-finale. Leur duel en demi-finale.
C'est jaloux.
Leur duel en demi-finale à la Ligue des Champions 2010, effectivement, Barça-Inter remporté par Mourinho. Et à l'époque, effectivement, c'était la guerre entre eux. Ils se sont envoyés à partir de là, parce que juste après, il y a eu la Manita, effectivement,
oui.
5-0 infligé par le Barça.
Et tous ces classicos où ça donnait
encore plus. Et ça n'arrêtait pas de s'envoyer des grosses piques. Mais depuis, même Guardiola l'a dit, je crois, en début d'année, on a pris de la bouteille, de l'expérience, et maintenant, c'est plus polissé. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien que ça soit plus calme entre les deux ? Peut-être que c'est moins drôle.
On verra ça en tout cas. Les deux hommes ont rendez-vous sur la pelouse de White Hart Lane demain soir, donc à 17h30 en temps universel. Tottenham Manchester City, alors que aujourd'hui, eh bien, ça fait exactement un an que José Mourinho, qui avait été remercié à Manchester United, a signé chez les Spurs. Face to face donc entre les deux. Autre rendez-vous intéressant de cette 9e journée en Angleterre, on aura Leeds-Arsenal, ça sera dimanche en fin d'après-midi, et dans la soirée, Liverpool-Leicester City dimanche soir. On continue, on tourne une page avec nos auditeurs.
Bonsoir à toute la grande équipe de Radio Foot International. Moi, c'est Ernest Landry depuis le Cameroun. Alors, je vais donner un carton vert à Olivier Giroud. Parce que, franchement, c'est un joueur que j'apprécie pas du tout. Mais qui s'arrange à chaque fois à me clouer le bec. Donc, carton vert à Olivier Giroud.
Radio Foot, c'est parti. Omer Moudekereza en RDC, dans la province du Sud Kivu, à Bukavu. J'ai fait un carton jaune à la République démocratique du Congo qui a réussi au moins à faire un exploit du côté de l'Angola. Voilà notre équipe, les Léopards. On y va.
Salut à tous. Je suis Karamouro Denoa depuis Sikasso, au Mali. Donc, je donne mon carton vert à la sélection du Cap Vert. Le Cap Vert est la seule nation a compté 4 matchs, 4 matchs nuls.
Il faut c'est Kimtori Yaya depuis Koudougou, Burkina Faso. Je voulais donner un carton vert au sélectionneur de Burkina Faso, Kamou Malo, pour son travail avec les étalons. Papa, nous sommes derrière toi. Merci.
Rémi, il vous plaise nos auditeurs?
Magnifique, surtout le carton vert avec la feuille de, je ne sais pas, c'était pour faire le bâton de manioc au corps. Mais cas, c'est authentique, c'est original.
La feuille, hein, on y est, hein, avec nos auditeurs. Ouais. Je vous avais dit, ils sont créatifs, ils sont fantastiques. En Liga, le rendez-vous de cette 10e journée en Espagne est fixé à samedi soir, avec donc ce face-à-face entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, sans Luis Suarez, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, puisqu'il n'est plus au Barça, mais surtout, il ne jouera pas pour l'Atlético Madrid, puisqu'il n'a même pas joué avec l'Uruguay le deuxième match. Il est atteint par le virus du Covid. Alors quand même, ce qui anime les débats en Espagne, Eric, c'est toute cette polémique autour de Messi, Griezmann. Le pauvre Messi, il en a un peu ras-le-bol.
Ben, il est revenu de l'Amérique du Sud, où il était en sélection là, avec l'Albicéleste, et à l'arrivée à l'aéroport, et ben, tous les médias... rué sur lui.
Alors, ah oui, c'est bon, vraiment le cas. Si on voit les
masque,
images.
Là, ça ne compte plus. C'est sérieux, c'est du football, c'est
mais
la religion.
Avait le sien, mais...
Là, la distanciation, il n'y en a plus. Ils sont tombés dessus. Alors, Griezmann, ça ne va pas avec lui et tout. Encore des problèmes et tout. Messi a dit, mais j'en ai marre, arrêtez de me parler de ça. Je ne suis pas la cause de tous les problèmes.
Voilà, on voit les images derrière.
De tous les problèmes qu'il y a au Barça. Fichez-moi la paix. Mais il a un peu raison. Bon, après, effectivement, peut-être pendant 10 jours, là, les médias catalans n'ont pas eu de grain à moudre. Et effectivement, les déclarations de l'entourage de Griezmann ont alimenté un petit peu, donc ils n'en pouvaient plus, ils avaient besoin d'avoir une réponse.
Qui en avait rajouté un peu en disant que, en gros, pour résumer, Messi se comporte mal avec Griezmann. Et puis, il y a eu aussi ce candidat à la présidence du Barça, puisqu'il y aura des élections bientôt, et Victor Font, qui lui a dit c'est une signature que nous n'aurions jamais dû faire, c'est-à-dire nous n'aurions jamais dû recruter Griezmann. En tout cas, Ronald Koeman, juste avant le match du week-end, il en avait un peu marre ce matin et il a parlé de ses joueurs.
Je peux comprendre que Léo se soit énervé. Il faut respecter des gens comme Messi. Après un si long voyage, qu'il soit interrogé sur Antoine, je pense que c'est un manque de respect. Je comprends que vous cherchiez une polémique, mais moi dans le vestiaire, je n'ai pas vu de mauvaise relation entre les deux.
On comprend une certaine irritation, évidemment, parce que ça fait des semaines que ça dure. Xavier Barré, Ronald Koeman, évidemment, essaye de protéger ses joueurs. Mais est-ce que ça interfère sur le côté sportif, non seulement des deux joueurs peut-être qui sont concernés, mais aussi sur tout un vestiaire?
Forcément, parce que vous avez d'un côté Messi, qui est l'icône intouchable, avec... une
et
grande
raison,
partie du vestiaire qui
est,
oui,
non,
mais bien sûr,
ballon d'or,
qui est avec un grand nombre d'amis dans le vestiaire, même si Luis Suarez est donc passé à l'Atlético et que certains sont partis maintenant. Et puis vous avez en face Griezmann qui recrutait 120 millions d'euros il y a plus d'un an maintenant, qui arrive quand même comme un recrutement important, qui arrive dans un vestiaire où il a beaucoup d'alliés entre guillemets, notamment tous les Français puisqu'ils sont quatre, et puis qui trouve pas sa place. Donc il y a un vrai problème.
Surtout peut-être pas sa place plus sur le terrain que dans le vestiaire.
Alors sur le terrain, mais par répercussion forcément, ça c'est compliqué dans le vestiaire puisque souvent ce qu'on trouve sur le terrain.
Et l'entraîneur, il doit s'occuper de ça.
Et l'entraîneur doit trancher. Vous avez eu Valverde qui a pas eu le temps d'arriver à les faire jouer ensemble. Vous avez eu Quique Setién qui avait pas l'autorité pour. Et maintenant vous avez Ronald Koeman qui lorsqu'il arrive, il dit voilà je compte sur Griezmann et Griezmann est super content. À ce moment-là, mais il faut rappeler les choses quand même. Messi veut partir. Messi va au bras de fer, ça dure pas très longtemps, mais il va quand même au bras de fer avec les dirigeants catalans pour partir. Et puis finalement, eh bien, il reste. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Il a encore un an de contrat, enfin la saison en cours. Et vous avez Griezmann qui, du coup, se retrouve remplaçant ou sur une aile ou enfin qui joue les utilités. Donc forcément, quelque part, ça peut être que mal vécu par l'international français. Parce que c'est vrai que Messi a un statut d'intouchable. Mais quel est l'intérêt du Barça dans cette affaire si Messi s'en va dans quelques mois et que Griezmann est au fond du trou? Donc là, on a vu que quand il revient jouer en équipe de France, et j'étais au Stade de France lors de du dernier match contre la Suède, bah, quand il est dans son élément avec des joueurs avec qui il a l'habitude d'évoluer, au Portugal, il était très bon aussi. Griezmann a le niveau pour jouer à Barcelone. Mais à quelle place? Le débat reste ouvert.
Rémi?
Vous savez très bien que je ne suis pas un très grand ami de Lionel Messi, mais en réalité, il faut reconnaître aussi ses capacités et il faut aussi dire que dans cette histoire, je crois qu'il n'a pas beaucoup tort. Parce que quand vous arrivez au Barça, vous savez déjà que vous aurez devant vous un patron qui peut faire partir les entraîneurs et tout le reste. J'étais le seul ici. Quand vous aviez barré avec El Refi, disait aux gens que Griezmann allait réussir au Barça, je leur disais, voilà qu'il est en train d'aller se faire griller. Ils n'ont pas voulu me comprendre, nous y sommes. Maintenant, il ne faut pas se dire que c'est parce que Griezmann a une relation peut-être puante, pestilentielle, et que peut-être il n'est pas d'allure compatible avec Lionel Messi. Il faut déjà se dire que d'autres sont partis échouer là-bas. Donc, même David Villa qui était espagnol, donc il avait beaucoup d'espagnols, c'est-à-dire qu'il rentre quand même de la Coupe du Monde où il était titulaire avec l'équipe d'Espagne. Il vient de remporter. Il arrive. Mais avec Lionel Messi, eh bien, il grondait David Villa au niveau du stade de telle sorte que il a même été obligé d'exiler sur un côté. Maintenant, il faut aussi savoir que, et il y a un grand footballeur français qui est arrivé au Barça, qu'on appelle Thierry Henry. Thierry Henry a été obligé de s'exiler sur un côté. Est-ce qu'il a véritablement échoué? Il n'a pas échoué. Au Barça, on ne peut pas dire que Thierry Henry a échoué. Mais concernant Griezmann, je crois que il a beaucoup gonflé comme cet aliment africain qu'on appelle le tapioca. Dès qu'on met de l'eau, ça se met à mousser. Sauf que par la suite, il n'y a pas de la prestance, de la hauteur. Parce que le fait de dire qu'il peut s'asseoir sur la même table que Messi et Ronaldo, il s'est vu très grand. Et quand il arrive maintenant au Barça, ça, il ne peut pas jouer. Mais c'est lui. Il n'a pas le niveau de jouer au Barça. Et de plus, dire qu'il peut porter le Barça comme Messi porte le Barça, il n'est même pas à la cheville, pas au genou.
Mais je pense que
Messi.
Rémi Gonneau n'a pas vu beaucoup de matchs de Barcelone où Messi ne jouait pas.
Du coup, je vous dis, il y a un problème africain qui dit deux crabes mâles ne vivent pas dans un même trou.
Mais on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que quand Messi joue, eh bien, Griezmann ne sait pas où jouer. Mais quand Messi ne joue pas, alors c'est vrai que c'est assez rare, eh bien, Griezmann est très bon. Parce que c'est
il a
ils sont
match.
Ben, la saison dernière, il avait des Messi était pas là quand il est arrivé. Griezmann a été très bon.
Et après
le problème, c'est que vous avez le proverbe africain de Rémi pour une fois est assez réaliste. Oui, ils sont deux pour une place, deux fauteuils pour un. Donc
deux crabes dans un même trou, ça fait.
Sauf qu'il y a un roi. Et il y a un roi télé.
Il y a six ballons dans son trou. Éric Mamrut, finalement, alors on a ces deux joueurs qui essayent tant bien que mal de jouer ensemble, et en face on a un Atlético Madrid qui semble être bien meilleur cette année. Alors lui, il a pas de problème. Il y a Morata, il y a João Félix qui marque aussi, et ça risque d'être un match très intéressant.
Ah oui, mais c'est toujours des matchs, enfin encore plus ces dernières années.
La
confrontation est née en 1921, c'était la date du premier duel. On en sera en 200.
Déjà 15 ans.
Voilà, on en sera en 200.
Non, j'avais 24
ans. Voilà, on en sera en 214e. Mais bon, l'Atlético en même temps, il reste plutôt stable ces dernières années. Troisième la saison dernière. Avant c'était troisième. Donc ils sont toujours plus ou moins là.
Sauf que là ils ont pris un peu d'avance cette année. Ils sont devant le Real, ils sont devant le Barça.
En fait ils sont à peu près à leur niveau, même si là
ils ont tous des matchs en retard.
Là on a une bonne version de l'Atlético, alors que le Barça est pas très très bien. Bon voilà. Après, juste pour revenir au débat, moi je pense que deux bons joueurs peuvent, en bonne intelligence,
doivent même non.
Oui, bah, évidemment, c'est tout leur intérêt, hein. Jouer ensemble. Après, peut-être que eux, ils n'ont pas l'intelligence pour trouver la bonne formule. Ça, c'est à l'entraîneur, je pense. Après, il y a une succession d'entraîneurs. Chacun essaye trois. Oui, mais sur une période assez courte.
C'est vrai.
Avec beaucoup de péripéties externes, extérieures.
Ouais.
Moi, je laisserai encore un peu de temps à Ronald Koeman, qui a raison d'apaiser un petit peu les choses, là, parce que s'il commence à monter l'un contre l'autre, là, c'est fini, là.
Ça, c'est
moi,
sûr.
Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est pourquoi ça sort, là, maintenant, de la part de la famille de Griezmann. Je vois mal Griezmann ne pas contrôler ses déclarations, ou alors, il est bête, alors il n'a aucun pouvoir dans sa famille, parce que,
non,
est-ce
ça,
que
c'est
lui ça. Qui dit,
dit
en fait, passer le message,
c'est non, oncle et ancien conseiller.
Oui, c'est ça.
Oui, faites passer le message que ça ne va pas,
mais
dire du mal de Messi comme ça, c'est très bizarre.
Alors,
c'est ça qui m'interpelle surtout, et dans quel but, et si ça lui échappe, ça veut dire qu'est-ce qu'il a, il a aucun caractère. Quoi.
Mais regardez, la dernière précédent rassemblement de l'équipe de France, il avait déclaré de façon assez anodine, naturelle, parce qu'il est très spontané, l'entraîneur de l'équipe de France sait comment me faire jouer, et ça avait créé une polémique, parce que tout de suite, cette petite phrase avait été ressortie de son contexte, et les médias, les journaux en Espagne avaient titré
après,
sur ça.
Après, c'est difficile de se faire une place à côté de Messi, mais il a besoin de s'imposer aussi, il a raison aussi de vouloir... écoutez, moi je suis Griezmann aussi, j'ai quelque chose à dire.
Peut-être que c'est aussi un moyen, effectivement, un coup de billard à trois bandes pour rappeler à Ronald.
Chavez a réussi à se faire une place là-bas. Hein.
Pour rappeler
à un Sud-Américain aussi.
Pour rappeler à Ronald Koeman.
Je vous ai dit que Thierry Henry a réussi quand même.
Pour rappeler, enfin, ouais, il était sur le banc souvent, Thierry Henry. Pour rappeler à Ronald Koeman qu'il s'était engagé en début de saison à s'appuyer sur lui. Et que finalement, le premier qui sacrifie dès qu'il y a un expulsé, dès qu'il faut faire rentrer quelqu'un d'autre, etc., c'est Griezmann.
Mmh. Mais il n'a sûrement pas le choix.
Mais là, c'est en s'attaquant à Messi, donc c'est touchy, quoi. C'est
à suivre. À suivre
devant les buts. Franchement, il n'y a pas de gardien. Tous les défenseurs sont partis se reposer. Et puis Griezmann, boum, il bombarde pour aller chercher les manques.
Eh ben, on verra s'il bombarde et s'il donne la victoire au Barça. Le Real Madrid ira, lui, à Villarreal. Le Villarreal qui est deuxième, qui recevra donc le Real Madrid quatrième. On parlait du Barça. Eh bien, souvenons-nous un instant de ce grand Blaugrana de la sélection argentine.
Non, Mahamadou Ali, depuis Gabon. Carton jaune pour l'équipe nationale du Sao pour les non-qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun. Carton jaune pour le moment.
Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International et Rémi Ngolo. Je m'appelle Oudéfi Saka, je viens des îles Comores. Mon carton sera vert à la sélection comorienne pour l'exploit continental qu'ils ont fait. Merci beaucoup et merci Madame Annie.
Bonsoir Annie, bonsoir à toute votre équipe. C'est Abdoulaye Traoré depuis Sénégal, Kaolack. Je donne un carton rouge à la FIFA pour ces nombreuses matchs sans enjeu que je trouve inadmissible dans ce contexte qui constitue juste un goulot d'étranglement pour les joueurs et ainsi à augmenter le nombre de joueurs à l'infirmerie. Merci et bonne émission.
Et voilà nos auditeurs et leurs cartons.
Sévère, hein, le carton rouge à la FIFA.
Pas mal, hein.
Ouais.
Faut oser. Non, c'est du Rémi Ngono, ça.
Ouais,
un carton rouge.
Non, mais c'est vrai que les joueurs jouent beaucoup, mais en même temps, ces matchs-là, ils permettent de financer le budget de la FIFA. Ils financent aussi le développement du football dans différents continents. Donc, voilà.
Alors, nous allons évoquer, un joueur, c'est Fouet, comme on dit, Eric.
C'est
Fouet, le Refecito. Un nouveau retraité du côté de l'Argentine, Javier Mascherano, a annoncé en début de semaine et en visioconférence, puisque c'est désormais le lot de tout le monde dans le monde que nous vivons, qu'il mettait un point final à sa carrière de joueur avec Estudiantes de La Plata en Argentine, où il terminait sa carrière.
C'est une décision à laquelle je pense depuis longtemps. J'en avais discuté avec le club que je tiens à remercier de m'avoir donné l'occasion de terminer ma carrière en Argentine. J'ai vécu ma carrière à fond, à 100%, j'ai tout donné, et aujourd'hui c'est devenu dur pour moi. C'est le moment de terminer ma carrière.
Le moment de terminer sa carrière est surtout ce qu'il explique, et ça touche pas seulement Javier Mascherano, mais beaucoup de joueurs, je dirais, d'un certain âge, en tout cas en fin de carrière. Il l'a expliqué, j'ai essayé de revenir après le long arrêt provoqué par les confinements dus au coronavirus, et il n'a pas réussi à retrouver son niveau, c'est pour ça qu'il s'est dit que c'était mieux de partir. Javier Mascherano, c'est le défenseur par excellence.
Non, je dirais pas Eric. Ça. N'oubliez pas qu'il a démarré milieu défensif.
Oui.
Il était
il était milieu. Il a d'ailleurs, il a continué avec la sélection argentine, la Coupe du Monde 2014, il est milieu défensif. À la dernière, il est milieu défensif, la sentinelle, dans un 4-3-3, là, c'était en 2018. Et c'était sa position un peu idéale. Parce que pourquoi on l'appelait le jefecito, petit chef? Parce qu'il dirigeait.
Il dirigeait autour de lui.
C'était lui le patron. Il y avait Messi après en lieutenant. Parce qu'on sait bien que Messi, c'était pas, enfin, c'est le patron technique. Mais le chef, celui qui, effectivement, était l'emblème de la sélection albiceleste, c'était Javier Mascherano, qui a démarré en 2003 en sélection, qui est le recordman de sélection avec l'Argentine, avec 147, devant Javier Zanetti, 145, Messi et 5 longueurs derrière. Bon, il va sans doute le dépasser. Évidemment, il a eu une carrière longue comme le bras. Donc,
c'est
évidemment,
bien ça qui était allé le chercher. Hein. Il avait 19 ans.
Ouais, il faut rappeler une chose, c'est qu'au départ, il va ah oui, en sélection.
Pardon. En sélection, oui, en 2003, il va le chercher à River Plate. Il a pas encore joué avec Léa, mais il dit, on parlera de lui et
j'embarque. Il avait 19 ans et après, il a fait 4 Coupes du Monde, 4 Copa América, double champion olympique avec l'Argentine, 2004-2008. C'est le seul Argentin double champion olympique.
Et finale de Coupe du Monde.
Ce qui démontre effectivement le tempérament de ce garçon. C'est effectivement un très très fort caractère avec des qualités footballistiques intéressantes.
1m70 seulement.
Pas exceptionnel, hein, effectivement. Mais une grande intelligence de jeu aussi, ce qui fait qu'il a su s'adapter.
Oui.
Eric Mamouth rappelait que son poste, c'était milieu de terrain. Mais le jour où à Barcelone, on l'a dit, ben, il n'y a plus de défenseurs centraux, tu vas jouer derrière, et ben, il a su s'adapter. Et dans le système de Barcelone, en fait, il était parfaitement intégré, parce que comme Barcelone avait tout le temps le ballon, en fait, il continue à jouer au milieu de terrain, même s'il était plus ou moins défenseur central.
Rémi, Javier Mascherano, quel souvenir vous en avez, vous? C'est plutôt l'Argentin finale de la Coupe du Monde 2014 ou c'est avec les Blaugrana?
Beaucoup plus avec les Blaugrana, sauf que je crois que c'est un talent aussi gâché parce que effectivement, comme vous avez dit ça, que au milieu du terrain, c'est quelqu'un qui vraiment était la véritable toile d'araignée. Parce que aujourd'hui, quand on demande à Busquets de faire ce travail-là, Busquets n'a pas le même tempérament, n'a pas le même caractère. Et d'ailleurs, ça a beaucoup manqué au Barça. Et j'étais très content lorsqu'il fallait jouer un corner. Parce que avec un corner, vous étiez sûr que n'importe qui allait battre Javier Mascherano parce qu'il avait 1m70 pour défendre sur Cristiano Ronaldo. C'était très compliqué. Et du coup,
c'est pour ça que Gérard Piqué était là.
Il fallait aller sur Piqué. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, Ramos allait sur Piqué. Piqué ne pouvait plus aller à la fois devant Ronaldo et tout et tout. Et puis, Ronaldo se chargeait, s'occupait de Mascherano et chaque fois ça faisait but. Donc nous on était très contents comme ça. Donc moi je crois que je crois qu'aujourd'hui non, il n'avait pas les réflexes d'un bon défenseur. Mais c'est vrai, la polyvalence y était, mais c'était du bricolage. C'était pas exactement son poste.
Ça a bien fonctionné quand même, deux Ligues des Champions remportées, quand même pas mal de titres.
Il faut quand même dire que la réussite qui est la sienne
à Barcelone est assez inattendue aussi, parce qu'il faut quand même rappeler son parcours. Il est argentin, donc il se retrouve au Corinthians de Sao Paulo avec Carlos Tevez, je crois.
Il reste qu'une saison.
Voilà, parce qu'en fait, ils sont
champions du Brésil.
Ils sont embringués dans une espèce de montage mené par Kia Jorapchian, qui depuis est devenu un agent influent du monde du football, qui les amène à West Ham, qui n'était pas vraiment un club de premier plan en Angleterre. De là, il va à Liverpool. Donc, il avait 23 ans, il avait déjà fait 4 clubs et je ne sais pas combien de transferts avec beaucoup de commissions dans l'intérêt de son agent.
Exactement le même parcours que Messi.
Voilà. Et c'est là, effectivement, qu'il est, entre guillemets, relancé après ces quelques errements. C'est quand il arrive à Barcelone.
Donc, Xavier Barré aime vraiment que Xavier Barré aime des joueurs qui vont de pays en pays.
En tout cas,
non, ce que je dis, c'est que justement, il a su bien rebondir après un début de parcours quand même étrange.
Au Barça. Et la Fédération Argentine de football, a rendu hommage à ce joueur avec un petit film vidéo et où ils disent grâce au travail de Mascherano derrière, ça libérait Messi devant. Et c'est assez amusant. Évidemment, le gros plan sur cette finale de Coupe du Monde au Brésil en 2014. On continue avec nos auditeurs avant d'évoquer un grand rendez-vous footballistique dans quelques temps.
Le carton rouge au football togolais qui s'est fait non seulement élu. Qu'est-ce qu'il ne pas? Des millions de Togolais attendent les explications de M. Claude Leroy, la FTF et les joueurs.
Radio Foot International, bonjour.
Les Tchadiens Mozana depuis Niamena au Tchad. Jamba, un carton rouge au Sahara du Tchad qui n'arrive même pas à faire une victoire lors des éliminatoires pour la CAN 2022 au Cameroun. Merci.
Salut, moi c'est Ouédraogo Madi, je suis au Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso. J'aimerais donner un carton vert à monsieur Olivier Giroud qui, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, ne cesse de nous épater. Ce monsieur a un mental d'acier.
Ils aiment bien Olivier Giroud, nos auditeurs.
C'est incroyable, hein. C'est le deuxième au moins.
Ah oui, non, mais le deuxième, on en a reçu beaucoup plus. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout passer, mais c'est marrant. Ils aiment bien Olivier Giroud, son côté combatif et jamais je ne me résigne. Hein, ouais. Rémi, c'est quelque chose qui plaît. Ça vous étonne, hein?
Oui, c'est quand même terrible. Bon,
bah, c'est sûr qu'il passe son temps pour fondre.
Je respecte leur point de vue, mais
voilà, j'espère.
Mais il y en a qui sont très sévères avec leur équipe nationale. Là, on a vu le Tchad qui, paf, carton rouge au Sao directement.
Il y a aussi des cartons rouges à d'autres. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Pour l'instant, on part, on s'envole. Là, on va vers l'est de la planète. Non, alors on va vers le Qatar. Nous sommes à J-2 ans. Le 21 novembre 2022 sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar dans un stade de Doha. Alors, le pays a été désigné il y a 10 ans. L'Émirat était alors une surprise. Il a même été au centre de nombreuses polémiques. Finalement, Xavier Barré, ce sera l'hôte de la compétition et on a même l'impression que ce calendrier avec cette Coupe du Monde qui se déroulera en hiver, alors Eric Mamrut, hein, on a vu Roland Garros en automne, on a vu un Tour de France à l'automne, finalement on peut pratiquement s'habituer à tout, une Coupe du Monde en hiver et au Qatar, ça prend de plus en plus non seulement forme mais de crédibilité.
De toute façon, plus on s'en rapproche, plus il faut se rendre à l'évidence que ça va se passer comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de pays, et notamment les Anglais, qui n'étaient pas du tout favorables à ce décalage, puisque eux, ils ont à cette période-là
des
rendez-vous. La Coupe du Monde se finit juste avant Noël, donc ils pourront peut-être faire un Boxing Day de rentrée. Enfin, je ne sais pas comment ils s'organiseront. On n'y est pas encore là-bas en Angleterre. Mais c'est certain que ça va être une Coupe du Monde différente des autres, parce qu'elle va s'intégrer au milieu de la saison.
Mais et à donc, un moment où on voit l'année 2020 était tellement chamboulée qu'on a l'impression que bon, ça peut durer jusqu'en 2022.
Oui, donc en plus, on risque de plus avoir du tout de coupure d'ici la fin de la saison 2022-2023 même, parce que il va falloir jouer toutes les compétitions qui sont programmées dans les espaces qui restent. Il y a effectivement l'Euro, la Copa América qui ont été décalés à 2021, la Coupe d'Afrique des Nations janvier 2022, et vous allez arriver l'été 2022, il y aura peut-être une petite trêve, et derrière la saison, compte tenu du fait que ça va s'arrêter un mois, tous les championnats vont s'arrêter un mois, les saisons vont recommencer très vite en août. Donc il y aura pratiquement plus d'arrêt jusqu'à la fin de cette saison 2022-2023. Maintenant, le fait que cette Coupe du Monde ait lieu en milieu de saison, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'on sait que souvent, les grandes sélections, et en particulier les Anglais, qui ont des saisons extrêmement denses, quand ils arrivent en fin de saison pour faire des compétitions internationales, ils sont rincés. Ouais. Ils ont beaucoup de mal à...
Pas les seuls, maintenant. Hein.
C'est pas les seuls, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, effectivement, beaucoup d'internationaux en Angleterre, en Première Ligue, mais ils sont rincés. Là, le fait que ça va avoir lieu au milieu de la saison, c'est une grande inconnue et du coup un grand intérêt pour tous les supporters de foot.
Rémi, ça sera un grand rendez-vous. On se souvient des polémiques, on se souvient des histoires, y a-t-il eu ou non corruption pour désigner ce pays. Là, on a l'impression que ça s'efface un peu devant tous les problèmes que traverse le football actuellement.
Ah oui, ça se passe parce que de toutes les façons, ça allait prendre presque tout le monde, dans la mesure où vous vous rendez compte quand même que on dit tel a donné à tel dans une chambre d'hôtel et tout. Finalement, on allait...
On saura peut-être jamais.
Donc, voilà. Mais cependant, ça peut devenir plus intéressant parce que lorsque vous regardez que la pandémie du coronavirus aujourd'hui sévit dans le monde et que, par exemple, de ce côté-là, au Qatar, on n'enregistre pas véritablement ce qu'on peut dire l'hécatombe et que c'est comme s'ils étaient un peu immunisés contre cette maladie. Donc, on se dit que probablement, du moment où nous sommes déjà en train de vivre un spectacle affreux dans des stades creux, au moins là-bas, on va retrouver une certaine joie. Maintenant,
Est-ce que les conditions climatiques vont permettre qu'on puisse aussi être si heureux? Parce que lorsqu'on vient d'ailleurs et lorsqu'on connaît la canicule qu'il y aura de ce côté-là en ces temps-là, même si on dit que les stades seront climatisés, est-ce que les routes seront climatisées? Tout le monde qui va arriver là-bas.
Donc
ça risque d'être très difficile pour que les joueurs puissent véritablement digérer et qu'ils puissent être aptes physiquement.
Mais ça sera au mois de novembre, décembre. Peut-être, je ne sais pas quelle est la température.
La température est plus supportable. C'est d'ailleurs pour ça que la compétition a lieu à cette date-là.
Bah voilà, c'était mis la raison.
Ne pouvait avoir lieu en fait qu'à cette date-là.
Après, la question, ça va être un petit peu, effectivement, s'il y aura du public, si les stades seront pleins.
Ils comptaient a priori sur 1,5 million de visiteurs pour cette Coupe du Monde.
Après, ça, c'est les gens de l'extérieur, effectivement. En même temps, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Est-ce qu'il y a beaucoup, je sais pas, beaucoup de bars, de restos, parce que c'est ça aussi la fête.
Alors les hôtels, pour l'instant,
c'est dans les stades et à l'extérieur avant et après, ça crée toute une émulation.
Et à Doha, en ce moment, ils ont du mal à terminer tous ces hôtels qui doivent recevoir les équipes, les hôtels de jour.
Mais ça va être aussi la part d'inconnu, effectivement.
En tout cas, il y aura un test. Il y aura un vrai test. Ça sera en février prochain, puisque traditionnellement, le pays organisateur d'une Coupe du Monde organise avant la Coupe du Monde des clubs. Elle a été déplacée de décembre 2020, où on aurait vraiment testé là quelles seraient les températures exactes, et ça sera déplacé au mois de février prochain. Donc là, on verra aussi les installations, on verra comment
Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si cette Coupe du Monde a été donnée au Qatar, c'est aussi parce que le monde arabe n'avait jamais eu de grande compétition internationale. Et il y a beaucoup de gens dans ces régions, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, même un petit peu plus loin en Égypte, en Iran, etc., qui vont vouloir venir à Doha pour assister au match, même si leur équipe nationale n'est pas qualifiée.
C'était l'idée de base de Michel Platini.
Absolument.
Exactement. Allez, on part pour notre dernière partie avec nos auditeurs, les jingles de carton. Ah.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Bonjour Radio Foot International, Diallo Matsalou Bachir de Conakry, carton rouge à l'équipe d'Allemagne et de Joachim Löw grâce à l'humiliation faite par l'Espagne. Big up à vous, bonne émission, ciao.
Je m'appelle Minara Adrien, je vis à Yaoundé au Cameroun. Je donne un carton vert à Luis Enrique Martinez, sélectionneur de la Roja, qui a infligé une lourde défaite à la Nationalmannschaft.
Bonjour Radio Foot, je me nomme Prince R7 de Chimalin. Je profiterai de l'occasion pour donner un carton vert à tous les internationaux maliens qui ont accepté de venir jouer pour leur pays. Merci à vous.
Hello, salut Radio Foot, c'est Raph depuis le Togo. Salut Annie et salut les autres. Je ne veux pas citer quelqu'un pour oublier quelqu'un, comme l'a dit Carlos Bianchi. Bon, j'aimerais bien donner un carton rouge à Claude Leroy, mais bon, je ne suis pas du genre rouge, je ne donne pas tout le carton rouge. Bon, et je donne plutôt un carton vert, très vert à Lukaku. Il fait un très beau travail, dans la sélection belge. On ne parle pas beaucoup de lui, mais bon, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Donc, carton vert à Lukaku, il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Donc, Radio Foot, c'est parti.
Je vous avais dit qu'ils étaient formidables, nos auditeurs. Un carton vert à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Pardon à tous ceux qu'on n'aura pas pu écouter aujourd'hui, mais on en profitera encore la semaine prochaine. Rémi, alors, votre carton.
Les auditeurs ont presque donné tous les cartons que j'avais prévus.
C'est pas grave.
Je vais quand même prendre celui de Durel du Diamoneka de ma page Facebook Gaming en officiel qui donne un carton rouge à la fédération.
Rémi, toujours fidèle au rouge.
Oui, parce que je voulais donner
allez-y.
Bon, voilà, je voulais donner à Buffon et tout ça, mais voilà. Donc, je donne rouge quand même parce que c'est un peu trop grave, sinon trop grave, ce qui s'est passé en Gambie. C'est-à-dire qu'avec des joueurs gabonais qui ont été étalés à l'aéroport, on a vu quand même comment est-ce que c'était des traitements cruels, inhumains, dégradants. C'était de la torture. Et finalement,
torture psychologique.
Oui, c'était une torture. Non, même physique. Parce que dormir à même
le sol
dans un aéroport qui n'est pas climatisé pour des joueurs de cette capacité
qui jouaient quelques heures après
et qui devaient jouer quelques heures après, donc la CAF elle-même pouvait reporter ce match et tout, et tout. Donc pratiquement c'est très compliqué, surtout que les Gambiens doivent quand même se déplacer dans d'autres pays et on va voir comment est-ce qu'ils ont traitent des gens chez eux. Donc l'accueil ne sera pas très bien partout ailleurs où ils iront, hein, comme dit un proverbe africain, ne jette jamais le caillou là où tu as caché ta dame Jeanne.
Xavier Barret, votre carton.
Ouais, bah moi je vais donner un carton vert à deux tout petits pays qui ont cette semaine gagné leur place en Ligue C de la zone Europe. Vous savez qu'il y avait la Ligue des Nations, c'était les dernières journées. Mmh. Donc on sait qu'il y a des pays, notamment la France, donc qui jouera le Final Four. Mais dans les divisions inférieures, il y a aussi des montées, des descentes. Et il y a deux pays qui montent d'un niveau. Et croyez-moi, c'est assez inattendu, c'est Gibraltar et les îles Féroé. Et ça démontre que ces tout petits pays qu'on n'attendait pas finalement, mais ils ont été capables de faire mieux que d'autres, comme Chypre, qui est quand même un pays un peu plus conséquent, pour gagner leur place et jouer lors de la prochaine édition, en 2022-2023, contre des formations qui seront forcément plus huppées. Ce sera peut-être difficile de se maintenir, mais c'est quand même assez incroyable qu'ils arrivent à monter à ce niveau-là.
Puis ça les fera progresser. Éric Mamrut. Quelle couleur?
Deux petits cartons, enfin un rouge d'abord, étonné par l'Islande qui nous avait tellement enthousiasmé à l'Euro 2016, avec cet élan populaire, les clappings, et puis le jeu qui était agréable, ils étaient allés loin, et puis là en éliminatoire, je crois qu'ils n'ont pas gagné un match, enfin ils ont totalement disparu de la circulation. C'est dommage de voir une équipe qui émerge. Et s'écrouler.
Ils ont raté le barrage, effectivement, après, pour l'Euro, mais bon, ils le perdent à la dernière minute, ça peut arriver. Et derrière, ils descendent en Ligue B, effectivement, parce qu'ils terminent dernier de leur groupe de Ligue A. Mais est-ce que l'Islande, durablement, au sommet du football européen, c'était...
Non, pas au sommet.
Il y a 100 footballeurs professionnels en Islande.
Voilà, quand vous voyez quelque chose émerger, vous avez envie les petites équipes de Mauritanie, elles continuent, on en a parlé cette semaine, on a envie qu'elles poursuivent sur cette lancée, non pas qu'elles s'effondrent. Après,
comme les Comores, hein.
Et voilà, les Comores. Ouais, un petit carton blanc à Claude Leroy qui a perdu sa maman cette semaine au moment où il disputait les éliminatoires face à l'Égypte.
Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il perde tous les matchs avec le Togo. Hein.
Non, on n'a pas dit
non,
ça.
Mais, carton blanc, c'est la paix, le petit drapeau. Hein, il faut savoir parfois. Message de sympathie, à mon avis, ça ne devait pas être facile pour lui de... De
Radio
penser
Foot,
totalement au terrain cette semaine.
Le carton de Radio Foot est vert et il va au meilleur entraîneur de l'histoire en Argentine. Il a été désigné en fait par un sondage populaire de la chaîne de sport ESPN d'Argentine, version Argentine, et il a gagné largement en tête. C'est Carlos Bianchi, bien sûr, qui est l'entraîneur iconique de Boca Junior, équipe avec laquelle il a remporté tant de titres, après avoir été en France l'un des meilleurs buteurs dans les années 70, et notamment meilleur buteur du Paris Saint-Germain et du Stade de Reims. Tout ceci, évidemment, avant d'intégrer l'équipe de Radio Foot International. Et puis un petit clin d'œil, un carton vert, énorme carton vert à quelqu'un de notre équipe à nous, qui s'appelle Swell Kedir, notre réalisateur. Parce qu'il y a une équipe entière qui s'est groupée pour lui dire bon anniversaire, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain.
Feliz anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Alles Gute zum Geburtstag.
Je te souhaite un joyeux anniversaire.
Feliz cumpleaños.
Bon cumpleaños.
Joyeux anniversaire.
Et voilà, c'est la fin de ce Café des Sports.
Pas mal, hein?
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont tant aidés pour ces cartons. Et rendez-vous est pris. David Finzel attend déjà les cartons de la semaine prochaine. Merci aussi à Laurent Salerno. Et on vous dit bon week-end. À lundi.